omnipresent question, who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
It's going to be legendary.
Culturez-vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture.
Kaboulox !
Ouais, c'est pas faux.
Salut à toi l'auditeur, salut à toi le podcasteur, salut à toi le petit geek, salut à toi le néophyte et bien bonjour à tous les autres. Je me présente, je m'appelle Audrey, une trentenaire et des poussières mordue de culture pop. Alors oui, la culture pop ou pop culture, c'est sympa, mais c'est aussi large qu'un grand écart de Van Damme. Et c'est justement ça qui est absolument génial. La culture pop, c'est ultra vaste. Ça passe de Warhol à Banksy, de Bowie au Daft Punk, des Gremlins à Batman, du Doc au Duc, de Malcolm au Peaky Blinders, et j'en passe. Bref, cette culture pop, elle parle à tout le monde. C'est très bien tout ça, me direz-vous, mais comment choisir les sujets d'une thématique aussi énorme ? Eh bien, de façon tout à fait dictatoriale et arbitraire, ou si vous préférez, c'est tout Bibi qui choisit. Tous les mois, Radio Évasion me permet de vous faire découvrir cet univers si éclectique et fantastique qu'est celui de la pop culture. Ciné, séries, musiciens, mouvements, gentils, méchants, je vais vous emmener à la découverte de tous ces artistes et autres mouvances qui ont fait partie de ma vie et peut-être aussi de la vôtre. Alors certains sujets évoqueront pour beaucoup, j'espère, de sacrés souvenirs, pour quelques-uns des références majeures et pour d'autres des curiosités à découvrir au plus vite. Alors trêve de bavardage, rentrons tout de suite dans le vif de notre premier sujet. Partons à la rencontre d'une des références les plus cultes en matière de culture pop, le vrai, le seul, l'unique chevalier noir, le bien nommé Batman. Batman, ou plutôt le Batman. Et oui, c'est bien de la plus célèbre des chauves-souris que nous allons parler aujourd'hui. Alors pourquoi, me direz-vous, choisir de présenter ce personnage pour cette toute première émission ? Eh bien, tout simplement et très paradoxalement, parce qu'on ne le présente plus. Tout le monde connaît Batman. Le fan de comics de la première heure, le geek accro, super-héros, le cinéphile endurci, mais pas que ! On a aussi la fameuse ménagère de plus ou moins 50 ans, le petit gamin de l'école du coin, ou encore, et je m'avance peut-être, mais au moins 80% du reste de la population mondiale. Adulé, détesté, copié, ignoré, peu importe, Batman est connu de tous. Pour cette émission, il fallait faire un choix. Avec un personnage aussi mythique, on aurait pu en faire 50. Je me suis donc concentrée sur sa place dans la culture ciné. Mais là encore, tant de choses à dire, alors ce ne sera pas une, mais bien deux émissions qui lui seront consacrées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la naissance du Bat, d'où il vient, qui l'a créé et comment il a réussi à grandir dans un contexte assez particulier. Viendront ensuite ses premiers pas à l'écran avec Batman le film, suivi de Batman le défi ou Batman Returns en version originale, tous deux réalisés par l'excellent Tim Burton. Comment le réalisateur l'a pensé, comment il l'a transposé à l'écran et quelles traces il a laissées dans l'univers d'ici. Dans la prochaine émission, nous aborderons son évolution au fil des réalisateurs, des nanars à la grande trilogie de Nolan en passant par quelques sorties de route. Et entendons-nous bien, certains ont créé de véritables légendes et d'autres ont juste réussi à... réussi à tourner des films en fait. Mais parce qu'on est sympa, on parlera de tout ce petit monde.
Vous écoutez Culture et vous ? Une émission de culture pop présentée par Audrey.
Mais commençons par le commencement. Who is Batman ? Qui est cet homme qui aime se déguiser et déambuler seul la nuit au cœur d'une ville coupe-gorge ? Batman est né en 1939 dans un comics créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger. Que tous les puristes me pardonnent pour la possible mauvaise prononciation de ce dernier. Et pour les non-bilingues et autres curieux, le comics se traduit simplement en français par bande dessinée. Mais pour garder l'effet super-héros américain, je me permettrai de garder le terme « comics ». Batman naît donc en 1939 grâce au succès de son compatriote Superman qui cartonnait déjà auprès de la jeunesse américaine. Nous sommes en plein âge d'or des comics qui sont de véritables bibles pour de nombreux ados. Pour résumer l'histoire de Batman pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Batman, c'est Bruce Wayne, un milliardaire qui a vu sa vie basculer le jour du meurtre de ses parents. Assassinés par un voleur dans une ruelle sombre, ils sont tous les deux morts devant Bruce, âgé alors de 8 ans. Le jeune Bruce n'a pas suivi de thérapie et a préféré se réfugier dans son manoir, accompagné de son fidèle majordome Alfred. Ce qui explique sûrement qu'une fois adulte, il décide de se cacher derrière un costume de chauve-souris et d'aller traquer les méchants dans sa ville de Gotham City. La particularité de Batman, c'est qu'il ne possède pas de super-pouvoirs, contrairement à beaucoup de ses super-collègues. Mais rassurez-vous, il s'en sort très bien grâce à ses super-dollars et à tous les super-gadgets qu'il peut avoir. Les aventures du fringant Chevalier Noir sont donc racontées chez DC Comics, grande maison d'édition de l'époque et qui réussit encore aujourd'hui. C'est un énorme succès. Les numéros s'enchaînent et cartonnent auprès de milliers de lecteurs. Et si aujourd'hui, on continue de parler de Batman, Superman et autres super-héros, c'est notamment grâce à la force de DC Comics dans les années 50. Pour resituer les choses, nous sommes aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique est en mode victorieuse et ses comics patriotiques ont continué de cartonner pendant la guerre. Les héros patriotiques diffusaient propagande et messages politiques. Les jeunes et militaires ont adoré. S'ensuit l'âge d'or de la consommation. USA in your Chevrolet. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee. Performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA. See it in your Chevrolet. Voitures, maisons, électroménagers, tous rêvent de la famille parfaite dans le coquet pavillon au gazon plus vert que vert. Alors forcément, quand on dépasse du cadre, c'est pas bon. Quand on parle du super-héros qui combat les nazis et les communistes, ça va. Mais pour les autres, tout doit rentrer dans les cases. Et ces pseudo-livres destinés aux jeunes commencent à inquiéter les bien-pensants. En effet, persuadés que les comics sont du poison pour la jeunesse, journalistes, psychologues et associations de parents partent en guerre contre les comics. Pendant 14 ans, ils tenteront de convaincre le gouvernement fédéral que ces BD sont une honte nationale, diffusant, et je cite, « un contenu qu'aucun journal qui se respecte ne se soumettrait à accepter ». Justice masquée, accoutrement trop court et vulgaire, incitation aux mauvaises manières, voilà ce que l'on peut a priori trouver dans ces comics de l'enfer. Amérique puritaine et moraliste oblige, le gouvernement fédéral décide de suivre les rétracteurs et met en place en 1954 un code de déontologie, le Comics Code Authority. À partir de ce moment-là, tous les comics sont pieds et poings liés. Du titre de magazine aux tenues et aventures des héros, tout doit rentrer dans les règles dictées par le code. Beaucoup de maisons d'édition ne s'en relèveront pas. DC parvient à maintenir le cap, de par son poids dans l'industrie des comics à l'époque, mais aussi parce qu'elle va jouer le jeu à fond et se plier aux règles du gouvernement. Certes, il garde la tête hors de l'eau, mais il y a un effet boomerang dans tout ça. Persuadé d'être continuellement au top du top, DC aura beaucoup de mal à s'adapter aux changements de société et à se renouveler auprès du public. Un univers lisse et poli, qui aura des difficultés à conquérir une jeunesse qui devient de plus en plus exigeante. Et aujourd'hui encore, ce décalage se fait régulièrement sentir. Marvel, si tu nous entends, mais trêve de mauvaise langue. Batman a donc survécu au code moral. Et il revient plus flamboyant et kitsch que jamais, accompagné de son fidèle Robin dans la série télévisée Batman en 1966 avec Adam West dans le rôle-titre. La série a pour mérite d'envoyer du rêve. Dialogue à couper le souffle, costume saillant à souhait, mais surtout des bagarres qui feraient passer Chuck Norris pour un petit joueur.
Et mes chers concitoyens de Gotham City, j'exige le SS Gotham. Sinon, vos chevaliers à la cape seront expédiés tout droit dans l'éternité.
Non, Joker, c'est vous qui serez expédié.
Tout droit sur la paille humide des cachots.
Mais enfin, quelle sorcellerie est-ce là? Il y avait assez de gaz paralysant dans ce bouchon pour tenir des hommes ordinaires des heures entières en léthargie.
Aucune sorcellerie, mais seulement une précaution. J'ai l'antidote universel à toutes les drogues, même les pires.
Lassé de ce kitsch, le public délaisse peu à peu la série et ABC décide de l'arrêter 2 ans plus tard. Avant de passer aux choses sérieuses et de parler de son évolution au cinéma, on s'écoute un extrait de la BO du premier Batman de Burton, BO interprétée par Prince, et pour les petits curieux, ce morceau est l'entrée du Joker dans le musée de Gotham.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.
We'll be right back. scriptures, please.
Retour sur Radio Évasion, vous écoutez toujours Culturez-vous, l'émission de culture pop. L'émission de pop culture, l'émission qui vous parle de culture populaire. Et aujourd'hui, nous parlons d'un personnage culte, le Batman. Et pour reprendre notre histoire du Chevalier Noir, nous allons entrer dans l'univers génial et fantastique du réalisateur américain. Tim Burton a réalisé son premier Batman en 1989. Et pour resituer le personnage, c'est également le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent et plus récemment Les Alice au Pays des Merveilles ou encore Dumbo. Sobrement appelé Batman, le film réunit un casting royal. Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger. Le film a rencontré un succès énorme, tant public, critique et commercial. Il s'est classé à l'époque 5e film le plus rentable de tous les temps. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Dès le départ, on sent que la route va être longue. C'est en 79 que des producteurs décident de racheter les droits du personnage auprès de DC Comics. Pendant des années, ils essaient de trouver le réalisateur idéal qui portera le fameux projet à l'écran. Deux des grands noms de l'époque s'y cassent notamment les dents. Joe Dante, réalisateur des mythiques Gremlins, et Ivan Reitman, celui des tout aussi mythiques Ghostbusters. La Warner décide de prendre le relais. Elle rachète les droits et propose à Tim Burton de se charger du film. Choisi pour le succès de son film Pee-wee Big Adventure, celui-ci accepte aussitôt. Mais même s'il accepte, il sait très bien dans quoi il s'engage et sait qu'il va devoir se battre pour imposer ses idées auprès de l'usine à dollars Warner. Parce que même si ce sont eux qui ont choisi Burton, celui-ci a dû attendre les chiffres de son dernier film Beetlejuice avant de savoir si oui ou non il pourrait réaliser Batman. Soit, le film est un carton. Burton obtient le César pour réaliser son film. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, Beetlejuice est également une référence absolue que je vous conseille plus que vivement. Donc, Burton se voit confier les rênes du projet Batman. Pour ce premier film, il décide de créer son histoire autour du duel mythique entre Batman et son alter ego maléfique, le Joker. Il refuse tout d'abord le scénario proposé par le scénariste de Superman. Il le trouve trop léger et pense que ce n'est que du réchauffé avec un nouveau personnage. Lui veut aller au-delà du masque et travailler sur le côté plus sombre et schizophrène du personnage. Cette démarche lui permet de s'éloigner de l'image kitsch de la série et de se rapprocher du personnage original des comics. Peu à peu, il retravaille l'histoire et écrit un nouveau scénario. Dans cette version, le Batman, campé par Michael Keaton, affronte un Joker fou, défiguré à l'acide et planté d'un rictus permanent. C'est le génial Jack Nicholson qui joue le fameux Joker. La Warner avait pourtant suggéré Willem Dafoe et Robin Williams pour ce personnage. Pour le Batman, Burton ne voit qu'un acteur, Michael Keaton. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont été approchés pour jouer le rôle. Kevin Spacey, Patrick Swayze, Harrison Ford, Bruce Willis, Mel Gibson et même Bill Murray font partie de la longue liste de Batman potentiels. Mais rien n'y fait. Burton se fixe sur son acteur et ne lâche pas le morceau. Rencontré sur le tournage de son précédent film Beetlejuice, il a toute confiance en Michael Keaton et sa capacité à aborder le côté sombre de la chauve-souris. Il voit en lui le héros tiraillé entre ces deux personnalités. Burton dira « J'ai comme Michael et Batman deux facettes, côté clair et côté obscur, et je suis incapable de résoudre ce conflit. » Il y a beaucoup de Michael Keaton dans le personnage de Batman, mais aussi beaucoup de moi. Si cela n'avait pas été le cas, jamais je n'aurais pu faire le film.
Vous écoutez Culture et vous, une émission de culture pop présentée par Audrey.
Sylvie voit parfaitement Keaton dans le rôle, ce n'est pas le cas de milliers de fans du comics. Autant Jack Nicholson en Joker les convainc tout de suite. Autant Keaton fait figure de sacrilège. La Warner reçoit plus de 50 000 courriers s'indignant et criant au scandale. L'histoire prend tellement de proportions que le cours en bourse de la Warner s'effondre. Et oui, ne jamais sous-estimer les geeks. Même le très sérieux Los Angeles Times publie une lettre d'un fan au bord de la crise et qui écrit, et je cite, « En choisissant un clown, Warner Bros. Et Burton ont déféqué sur le mythe Batman !» Rien que ça. Et cerise sur le gâteau, même Adam West, héros déchu de la série des années 60, annonce qu'il ferait un meilleur Batman. Peu importe, Burton et ses équipes s'envolent pour l'Angleterre et commencent à bâtir leur Gotham City. Pour la création de Gotham, il s'appuie sur Anton First, grand décorateur qui a notamment travaillé sur Full Metal Jacket de Kubrick. Cette ville qui abrite Batman et consorts est directement inspirée de New York. Mais Burton, particulièrement attaché à l'esthétique, réussit pour plus de 5 millions de dollars à en faire un endroit aussi sombre que la personnalité du Batman. Et c'est d'ailleurs pour mettre encore plus en avant cette facette obscure qu'on ne voit que très peu de scènes tournées en journée. Batman évolue la majeure partie du temps dans l'obscurité. Vient ensuite une nouvelle polémique. Cette fois, c'est le costume qui pose problème. Imaginez, on passe d'un costume bleu à un costume noir. Hérésie ! Pire, on préfère aux muscles saillants une fausse musculature intégrée. Encore une fois, les fans s'indignent et encore une fois, Burton laisse glisser et continue son travail. Si on a beaucoup parlé de Michael Keaton, on va maintenant se tourner vers l'autre héros du film, le Joker, magistralement interprété par Jack Nicholson.
Jack, écoute, on peut peut-être conclure un accord.
Jack est mort, mon ami. Tu peux m'appeler Joker. Et comme tu vois, je suis un homme comblé.
Habité, déjanté, il est validé chez les fans de la culture. Sourire figé, face blanche, costume violet et cheveux verts. Pour obtenir ce visage si mémorable, Nicholson devait tous les jours passer 2 heures à se faire poser plus de 350 adhésifs, sans compter le temps passé pour le reste du maquillage. Le Joker, donc, est l'anti-héros barjo qui permet aux gentils d'être dans la lumière. Mais dans cette version, le Joker est au centre de l'attention. Certains diront même qu'il éclipse Batman et que Burton a privilégié le Joker. Burton répondra que ce type de personnage, l'un extraverti, l'autre introverti, amène forcément ce genre de problème. Toujours ce dilemme de l'ombre et la lumière. Aujourd'hui encore, le Joker de Burton reste un des personnages mythiques dans l'histoire du Chevalier Noir. Très fier de sa performance, Nicholson dira même en 2007 que le Joker a été son meilleur rôle. Nous parlerons bien sûr dans la prochaine émission des légendaires Heath Ledger et Joaquin Phoenix, Joker du 21e siècle. Mais en attendant, une petite pause musicale avec Heroes de Bowie.
Can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Ah!
sur Radio Évasion, vous écoutez Culture et vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture. Le Batman est notre sujet du jour. En première partie d'émission, je vous parlais de sa naissance et du film de Burton réalisé en 89. Passons maintenant à la suite, réalisée encore une fois par Tim Burton, Batman le défi. Dans cette version de 92, le Batman, toujours joué par Michael Keaton, affronte de nouveaux ennemis et pas n'importe lesquels. Oswald Copperpot, alias le Pingouin, Selina Kyle, alias Catwoman, et Max Schreck, le milliardaire crapuleux. Et là encore, Burton s'offre un casting 4 étoiles. Danny DeVito pour le Pingouin, Christopher Walken dans le rôle de Max Schreck, industriel cruel et pourri jusqu'à l'os, et Michelle Pfeiffer en Catwoman. Cette dernière a d'ailleurs tout donné pour ce rôle, déjà rien que le costume. La pauvre était tellement serrée qu'elle ne pouvait jouer des scènes que de quelques minutes avant de devoir desserrer sa combinaison. Cagoule en latex oblige, elle ne s'entendait même pas parler. Mais tellement attachée au rôle, elle s'est pliée au jeu, a été jusqu'à gober un oiseau vivant pour la scène mythique avec le Pingouin et a même accepté de tourner avec son ex de l'époque, Michael Keaton, aka le Batman. Mais trêve de commérage, revenons au film. Batman le défi, à la différence du premier, est produit par Burton, ce qui lui permet d'avoir quasi carte blanche et de mettre en avant tous ses personnages déjantés. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il acceptera de réaliser ce deuxième opus. Traumatisé par le rythme et la pression du premier tournage, Burton était au départ catégorique. Non, il n'y aura pas de suite. Il s'est laissé le temps de réaliser son très personnel Édouard aux mains d'argent avant de finalement dire oui à la Warner. C'est donc autour de ces trois méchants déjantés que le réalisateur axe son film. Catwoman d'abord, la petite secrétaire timide qui se ressuscite en chatte badass habillée de cuir. Ce personnage fait pas mal parler de lui. On s'offusque de voir une femme vêtue de cuir et armée d'un fouet dans un film dit « pour enfants ». D'autant plus quand on voit son attitude de séductrice sadomasochiste et féministe. Parce que oui, Catwoman est une féministe, elle brise les codes et les tabous, elle défie les hommes, les femmes et tout ça dans une combinaison en latex complètement suturée à la Frankenstein.
Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Miaou.
Petite anecdote, c'est donc Michelle Pfeiffer qui incarne Catwoman. Mais lors du casting, l'actrice Sean Young, déjà évincée du premier Batman à cause d'un accident de cheval, est bien décidée à obtenir ce rôle. Pour ça, l'actrice de Blade Runner ira jusqu'à poursuivre Burton dans les studios de la Warner, vêtue d'un pseudo-costume de Catwoman. C'est un échec. Dépitée, elle fera même le tour des talk-shows américains pour dénoncer cette injustice. Mais revenons à nos moutons. On a parlé de Catwoman, penchons-nous maintenant sur le Pingouin. Incarné par Danny DeVito, il représente à la manière du Joker une nouvelle facette du Batman. Ce rôle était à la base destiné à Marlon Brando, mais c'est finalement Danny DeVito qui a pu jouer le Pingouin et profiter de ses 2 heures de maquillage quotidien. Là où le Pingouin a été abandonné dans les égouts de Gotham à sa naissance, à cause de ses difformités, Batman perd ses parents assassinés au coin d'une ruelle sombre. Tous les deux sont donc orphelins et poussés par leur quête. Reconnaissance pour l'un et justice pour l'autre.
Alors, monsieur Pingouin ?
Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot.
Monsieur Cobblepot, vous ne vous réconcilierez donc jamais avec eux ?
Exact. Bien qu'étant leur premier fils, j'ai été traité comme un fils indigne. Mais c'est humain, hélas, de redouter ce qui est autre.
Né Oswald Cobblepot, le Pingouin s'est créé un univers dans les égouts de Gotham. Entouré d'une bande d'acrobates de cirque complètement toqués, il s'est également créé une armée de pingouins kamikazes prêts à détruire la ville. Mais son gadget favori reste le parapluie. Tout au long du film, on découvre tour à tour le parapluie mitraillette, le parapluie volant, mais aussi le parapluie petit canard pour attirer les enfants des notables dans les sombres égouts de la ville. Un peu glauque ? Oui, sûrement. Je dirais même que c'était la volonté propre de Burton. C'est une version beaucoup plus sombre qu'il nous présente. Tout au long du film, la mort est là. de façon directe et franche, dès l'ouverture, quand les parents du pingouin, dégoûtés de leur progéniture, l'abandonnent dans les égouts, ou quand Selina Kyle se fait assassiner avant de revenir en mode Catwoman. Mais la mort rôde aussi de façon plus insidieuse. On sent comme un voile posé sur Gotham. Les trois monstres sont pâles, morbides et semblent revenir du fin fond du royaume des ombres. Même Batman, toujours dans le traumatisme de l'assassinat des parents, semble plongé dans une espèce de torpeur mélancolique. Il le dira lui-même, c'est grâce à la liberté de création retrouvée qu'il a pu mettre en lumière tous ses côtés obscurs. Ces freaks, ou monstres comme il les appelle, sont au centre du film. Leur personnalité borderline, leur exclusion de la société et leur résurrection sont au cœur du récit. D'un film d'action et de super-héros, Burton en a fait un film gothique et fantastique, emmené par la musique ensorcelante de son acolyte de toujours, Danny Elfman. Et même s'il a rencontré un succès moins important que son prédécesseur, il restera pour les fans l'un des meilleurs opus, et pour Burton, l'un des films qu'il a le plus inspiré, et surtout l'un des plus aboutis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais promis, juré, la prochaine émission, on se reparle du Bat avec la trilogie Nolan et les quelques écarts de route que le pauvre chevalier noir a dû subir. En attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Omnipresent question. Who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves.
It's going to be legendary.
Ouais, c'est pas faux.